Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion, votre radio locale. Voici Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. 356e numéro aujourd'hui de votre rendez-vous littéraire. Parcourir Rome, c'est passer le doigt sur ses rides et y lire tant d'épisodes, de heures, d'œuvres et de gloire. C'est ce que nous offre notre invité dans son dernier ouvrage intitulé « Fugue romaine » paru en mai dernier aux éditions des Clés de Brouwer. Édith de la Héronnière, bonjour.
Bonjour Yannick Petit.
Édith de la Héronnière, je suis très heureux, je ne vous le cache pas, de vous accueillir sur les banquettes de Wagon Livre depuis tant d'années où nous nous croisons dans les soirées littéraires de la Maison Jules Roy, dans la rue Saint-Étienne à Vézelay. Il était temps que je vous invite à venir vous exprimer devant le micro de l'émission littéraire de Radion.
Très bien, je suis très heureuse aussi de vous rencontrer, de vous retrouver.
Merci Édith de la Héronnière. Alors, Fugue romaine, c'est votre dernier ouvrage actuellement disponible en librairie. C'est à une joie d'une déambulation érudite et d'une découverte passionnante des lieux méconnus de la ville éternelle à laquelle vous nous conviez. Alors, Édith de la Héronnière, je vous présente un peu à celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes à Vézelay, où vous résidez maintenant depuis de nombreuses années, quand bien même vos origines sont parisiennes.
C'est ça.
Vous occupez d'ailleurs actuellement la maison dans laquelle a vécu pendant quelques années l'écrivain Georges Bataille.
Oui, et ensuite après lui sa femme, puis sa fille. Et j'ai acquis la maison en 2006 avec vraiment beaucoup d'émotion et presque de timidité, mais je peux dire que les mânes de Georges Bataille m'ont accueilli à bras ouverts.
Concernant votre formation, on va dire que vous êtes philosophe de formation.
Oui, c'est ça.
Vous avez été l'élève de Vladimir Jankélévitch, sous la direction duquel vous avez écrit votre mémoire de maîtrise et votre doctorat. Et vous avez été, durant 4 ans, la secrétaire de l'écrivain et philosophe, un peu père des nouveaux philosophes, Maurice Clavel.
C'est ça.
Premier récit en 1993, intitulé « La balade des pèlerins », la balade avec deux L, ou Mercure de France, texte qui a obtenu d'ailleurs un prix, le prix Tite de Monnier de la Société des gens de lettres. Et puis, pour être complet, j'ajouterai que vous avez collaboré à diverses collections, éditions et revues. Vous avez écrit, et peut-être écrivez-vous encore pour la NRF.
De moins en moins, mais occasionnellement. Mais j'aime beaucoup actuellement participer, quand j'en ai l'occasion, à une revue en ligne qui est dirigée entre autres par Jean Lacoste, qui est de la région aussi. Et cette revue s'appelle « En attendant Nadeau ». C'est une revue littéraire vraiment de grande qualité que je recommande à tous les auditeurs.
Alors Jean Lacoste, qui est philosophe, germaniste et qui a beaucoup travaillé sur Romain Rolland, c'est lui qui a d'ailleurs énormément annoté et qui a présenté le journal de Vézelay de Romain Rolland, paru chez Bartilla il y a quelques années maintenant.
Voilà. Hein. Et puis il a également écrit sur Goethe, sur Nietzsche, un très beau livre sur Nietzsche. Enfin, c'est un auteur discret, mais extrêmement intéressant et profond.
Donc vous avez écrit pour l'ANRF, le magazine Géo, Beaux-Arts Magazine, Jardin et également la revue des Deux Mondes.
C'est ça.
Alors si Jean Lacoste a beaucoup travaillé sur Goethe et sur Romain Rolland, vous avez écrit des biographies, notamment Teilhard de Chardin, ce jésuite oui. paléontologue dont il est un peu question dans Fugue romaine aussi, un petit peu.
Oui. Oui.
Et puis sur Joé Bousquet.
Oui, sur le poète Joé Bousquet. Oui, oui.
Alors, parlons un peu de Rome. J'ai lu dans Fugue romaine que votre premier séjour à Rome datait de 1980, mais c'est une ville qui vous est très familière.
Enfin, vous savez, c'est une ville inépuisable, mais j'ai eu la chance d'y séjourner pendant de longs mois, pendant plus de 30 ans. J'y allais régulièrement. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer et de partager la vie de Romain. Donc, c'est une connaissance peut-être plus intime et qui n'est peut-être pas donnée aux touristes en général. Et puis, j'avais un grand ami photographe qui résidait à Rome et qui m'a initiée aussi à cette ville. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans mon approche de Rome.
Rome, la ville éternelle, la Rome antique, la Rome du paganisme, la ville des Césars qui gît sous la ville des Papes, la Rome de la Renaissance, Rome et ses 900 églises. Il y a vraiment oui. 900 églises à Rome ?
Ah oui, oui, oui. Oui, oui, il y a partout des églises, soit très anciennes qui remontent au 5e siècle, soit tout à fait contemporaines, mais il y a énormément d'églises, beaucoup, beaucoup, beaucoup de clochers.
Vous êtes très sensible d'ailleurs au son des cloches oui, hein, que oui. vous entendez d'ailleurs dans cet appartement sous les toits avec oui. terrasse où vous avez donc oui, séjourné. Oui. Et là où vous avez oui. Écrit, je pense, la grande majorité des pages de votre dernier ouvrage, Fugue romaine. Alors, il y a aussi la Rome très moderne, l'architecture postmoderne, les quartiers oui. de la Rome moderne. Vous les citez, Garbatella, Spinacetto, oui. j'espère bien prononcer, Edith, aidez-moi. Monteverde, Vigne Nuove.
Je ne suis pas sûre de mon propre accent.
Et puis, il y a Rome et ses fameuses sept oui. collines.
C'est ça.
Alors, le Capitole, oui. avec oui. l'épisode des oies du Capitole, bien sûr. Et puis, l'Aventin. Alors, l'Aventin, il semblerait que le pèlerinage sur l'Aventin soit incontournable quand on se rend
Alors,
à Rome.
L'Aventin, c'est un quartier un peu résidentiel et secret de Rome. Un quartier très tranquille, très à l'abri de l'énorme bruissement de la ville. C'est un quartier auquel on accède par une petite route enlacée. Et j'aime beaucoup l'Aventin pour la vue qu'on a du haut de cette colline sur la ville. Et j'aime beaucoup aussi l'Aventin pour la mémoire de Cristina Campo, qui est un auteur qui est pour moi un de mes livres, un de mes auteurs favoris. C'est elle qui a écrit Les Impardonnables, qui est un véritable livre de chevet. Cristina Campo est celle qui a fait connaître, qui a introduit en Italie Simone Veil. Et je la lis et la relis sans arrêt. Et elle a vécu toute la fin de sa vie sur l'Aventin.
Alors avant que Cristina Campo ne s'installe et ne vive sur l'Aventin, on dit que Rémus y aurait vécu, donc un des jumeaux fondateurs
oui.
de cette ville.
Et il aurait été tué sur l'Aventin par son frère jumeau. Mais je ne sais pas s'il y a des traces particulières de cet épisode. Hein.
Alors concernant les collines de Rome, il y a aussi le Palatin, il y a le Quirinal oui. qui est le fief en fait du pouvoir politique italien. Oui. Et puis il y a le Janicule et son jardin botanique parce que les fleurs, la végétation, il y a des odeurs aussi dans oui. cette ville de Rome. Ce n'est pas qu'une grande métropole européenne
il y a beaucoup de jardins.
Polluée. Il y a aussi
des
havres de paix.
Et un des moins connus, peut-être parce qu'il est un peu excentré, il est de l'autre côté du Tibre, donc dans une région qu'on appelle Trastevere, au-delà du Tibre. Et c'est une colline qui abrite justement le jardin botanique qui est merveilleux et assez peu connu, mais qui abrite aussi la mémoire du poète Le Tasse, qui est venu finir ses jours sur le Janicule, abrité par les pères qui tenaient la petite église Sant'Onofrio. Et c'est un endroit aussi assez secret, peu connu, mais très émouvant. Et on voit encore le chêne sous lequel venait se réfugier Le Tasse, qui est aujourd'hui un horrible moignon de bois.
Et Le Tasse, alors pour rappeler Le Tasse, donc c'est l'auteur de cette fameuse Jérusalem délivrée, qui est un poème héroïque. C'est un auteur qu'il faut situer au XVIe siècle et qui finalement a un peu flirté avec les idées du protestantisme. C'est la raison pour laquelle on a tenté un peu de le protéger.
Non, pas tant que ça. Il était surtout un grand maniaco-dépressif, je pense. Et il avait des phases d'excitation qui ont fait que ses protecteurs l'ont mis à l'abri. Il a été quasiment emprisonné pendant 7 ans pour le protéger d'un assassinat. En fait,
sa vie n'a été que fuite, retour et errance. Hein, c'est ce que vous écrivez.
Oui, c'est ça. Mais son poème, La Jérusalem délivrée, est un des plus grands et beaux poèmes qu'on puisse lire et qui a influencé énormément les auteurs d'oratorio, les marionnettistes aussi, les marionnettes siciliennes reprennent beaucoup d'épisodes de la Jérusalem délivrée, et puis Monteverdi et tous les grands auteurs d'oratorio ont repris des phases de son poème.
Fugue romaine, c'est le titre du dernier ouvrage de notre invité Edith de Léronnière. Edith, vous avez parlé de musique, on va peut-être pas écouter d'oratorio ou de musique classique, je sais que vous y êtes très sensible, mais sur Radio, on écoute, disons plutôt de la variété. Alors on marque une petite pause musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Edith de la Héronnière qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre. Elle vient de faire paraître Fugue romaine chez Desclés de Brouwer. L'ouvrage est disponible en librairie et c'est une déambulation, une promenade, je l'ai dit, érudite, littéraire, artistique, architecturale, historique, bien sûr. Alors, Edith de la Héronnière, concernant cette superbe ville de Rome, vous écrivez que à Rome, bien sûr, on y découvre cette civilisation qui a fait ce que nous sommes. Et finalement, retourner à Rome, c'est retourner aussi aux sources et aux origines de notre propre culture.
Ah oui, aux origines de notre langue, aux origines de toute notre littérature également, de notre architecture, des lieux. Je pense par exemple à Paris, au Champ de Mars. Le Champ de Mars, Campo Marzo, c'est à Rome, un des quartiers de Rome les plus de la ville de la Rome antique. Le Panthéon, c'est également un des plus beaux monuments de Rome, qui est une immense voûte sans aucune ne reposant que sur des caissons et sans colonnes et très impressionnant. Et oui, on est à Rome aux racines de une des racines, en tous les cas, de notre culture.
Alors, effectivement, vous avez parlé du Panthéon. C'est vrai que dans la Rome antique, il y a une floraison de dieux. C'est aussi la ville de la papauté. Et ça, étonnamment, vous écrivez, Edith de la Héronnière, il n'y a pas plus ironique et moins respectueux de la papauté qu'un Romain, paradoxalement.
Ah oui. Ça, j'ai pu observer ça de près. Effectivement, les Romains ont... D'abord, ils ont un esprit très, très ironique. Le Romain est assez sarcastique et aime plaisanter avec le sacré, je dirais. Et c'est vrai que les Romains qui voient la papauté de près, puisque le Vatican est inséré dans la ville de Rome, ils sont souvent très, ils ont beaucoup d'humour vis-à-vis de ce qui se passe au Vatican.
D'ailleurs,
ils s'en passent des choses.
Et vous, Edith, est-ce que vous êtes très frottée de religion ? La philosophe Edith de la Héronnière, quel est son rapport par rapport au sacré et par rapport à la religion ? Ce n'est pas une question qui vous dérange, j'espère.
C'est une question intime. Et pour moi, le religieux est de l'ordre de l'intime. Donc, je suis catholique et je reste catholique. Je suis souvent très dérangé par les manifestations extérieures de la foi et par évidemment les intégrismes qui ont tendance à proliférer aujourd'hui. Je pense que ce livre m'a permis aussi d'exprimer certaines appréciations de la dimension plus intime du catholicisme. D'évoquer certains saints qui, pour moi, ont été très représentatifs d'un catholicisme à la fois social et mystique, comme saint Philippe Néri ou saint Alexis, dont je développe un peu le parcours pour et ça, pour moi, ce sont des saints auxquels il faut se référer. Je pense aussi au cardinal Newman qui a été très présent à Rome, mais qui ne sont pas des grandes gueules, comme on dit.
Quand vous parlez de saint Alexis, vous dites de lui que c'est ce grand petit saint, très joli oxymore.
Oui.
Ce grand petit saint d'Alexis. Alors bien sûr, vous habitez ici à Vézelay, rue Saint-Étienne. Saint-Étienne étant tout de même le premier martyr de la chrétienté.
Oui, mais j'habite place du Grand Puy.
Ah oui, vous n'êtes pas tout à fait encore rue Saint-Étienne.
Pas tout à fait.
D'ailleurs, c'est amusant. résider à Vézelay, qui est un haut lieu de l'esprit, Rome l'est aussi à travers oui. effectivement la papauté, vous aimez l'esprit des lieux.
Oui, oui, et j'aime les mettre en valeur par l'écriture, et puis il m'arrive aussi de m'indigner ou de me révolter contre une certaine dégradation de cet esprit, aussi bien à Rome qu'à Vézelay qu'ailleurs. Il faut être très vigilant, et c'est aussi écrire, c'est aussi rester vigilant sur ce à quoi on tient et ce qui est en devenir. Parce qu'un esprit du lieu, c'est pas seulement le passé, c'est aussi le devenir d'un lieu. Et qu'est-ce qu'on veut en faire ? Comment l'entretenir, comment le perpétuer, comment le renouveler.
En écrivant sur Rome, vous vous installez dans une tradition littéraire, parce que nombreux sont les écrivains français, notamment, qui ont séjourné à Rome et qui y ont rapporté des témoignages sur Rome ou sur ses beautés. J'étais très surpris, par exemple, des critiques de Berlioz, par exemple, sur la musique qu'il a pu entendre à la chapelle Sixtine, les critiques de Stendhal sur certaines œuvres qui, aujourd'hui, font partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est assez amusant aussi, tout cela.
Oui, oui. Alors, je pense que chaque époque a ses références. Quand Stendhal critique, est un peu sarcastique à propos de Michel-Ange, c'était l'esprit de son temps aussi. Et quant à Berlioz, Berlioz était passionné par Beethoven, et il a écouté beaucoup de musique de Palestrina, qui est un musicien typiquement romain, mais il est vrai que Palestrina, qui était joué dans la chapelle Sixtine, c'est une musique assez lente, assez monocorde, et qui peut paraître ennuyeuse, et qui, en tout cas, pour Berlioz, était d'un suprême ennui. Et c'est amusant de voir les réactions d'un grand musicien par rapport à un autre grand musicien.
Je me permets, Edith, de citer, et vous le citez dans votre livre « Fugue romaine », je cite Stendhal qui se plaint en août 1817. Voici ce qu'il écrit. « Je sors de la fameuse chapelle Sixtine. J'ai assisté à la messe du pape, à la meilleure place, à droite, derrière le cardinal Consalvi. J'ai entendu ces fameux castrats de la Sixtine. Non, jamais charivari ne fut plus exécrable. C'est le bruit le plus offensant que j'ai entendu depuis 10 ans. Des 2 heures qu'a duré la messe, j'en ai passé 1 et demie à m'étonner, à me tâter, à sentir si je n'étais point malade. » C'est sévère.
Oui, mais c'est aussi l'esprit de Stendhal qui est vivant, vivace, et qui ne s'en laisse pas compter, qui réagit personnellement toujours avec vivacité. Moi, j'aime beaucoup... beaucoup ça, j'aime beaucoup Stendhal, il me fait beaucoup rire aussi.
Et puis Berlioz donc a été pensionnaire de la Villa Medici à Rome en 1831.
Oui. Et Berlioz a été assez malheureux à Rome, et en fait il a pas été très sensible aux musiques romaines de l'époque, mais il a découvert des musiques que moi-même j'ai entendues aux périodes de Noël. Ce sont les piferari, les bergers des monts des Abruzzes, qui descendent de leur montagne, oui, on peut dire, au moment de l'Avent, et qui viennent jouer une sorte de pipeau, de cornemuse, dans les rues. Et cette musique des piferari, que Berlioz a entendu et a beaucoup aimé, l'a inspiré pour un morceau d'Harold en Italie. Et c'est très intéressant de retrouver l'influence de ces musiques populaires, traditionnelles, des montagnes autour de Rome, dans la musique de Berlioz.
Edith, on va marquer justement une petite pause musicale. La transition est assez facile. Je rappelle que vous êtes l'invité de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion pour votre dernier ouvrage, Fugue romaine, disponible en librairie aux éditions des Clés de Brouwer. Ne quittez pas, nous revenons dans quelques minutes avec notre invité.
La gueule de beau mec, le béret, le cigare au bec parfait sur le t-shirt d'Adriana. Allons faire un tour sur internet, voir si ce guerriero était vraiment le mec net. Pop. Libertador, Cador, que tout le monde adore, chantait dans la Sierra son chant de libération et de révolution. Est-ce que Juan Pérez a aimé cette chanson? Pop. Sévère, sévère, au revolver, le poète de la cabane s'écrit ses ta-ta-ta-ta dans la prison d'État. C'était la joie des villageois, viva Guevara. Sur la tête du fonctionnaire bête, du paysan analphabète, ce héros romantique aimait le petit déclic et l'efficacité des armes automatiques. Pop. Les carabines fines du Potemkin pour mettre au pas Batista. C'est jamais par plaisir, pas plaisir qu'on tire, mais pour un monde plus cool, il faut bien que le sang coule. Pop. Beau mec, le béret, le cigare au bec parfait sur le t-shirt d'Adriana. Allons faire un tour sur internet, voir si ce guerriero était vraiment le mec net.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Édith de la Héronnière, fugue romaine, alors long séjour à Rome, dans un appartement sous les toits avec terrasse, où vous êtes plus d'ailleurs terriblement dans cet appartement. Vous le quittez à regret d'ailleurs.
Oui. Hein. Oui.
Vous avez été non pas piéton, alors je pensais aux piétons de Paris, vous avez été la piétonne de Rome. Vous dites qu'il faut découvrir la ville à pied. Et d'ailleurs, vous dites que le piéton à Rome a tous les droits.
C'est-à-dire que la circulation est très intense à Rome. Et on a très peur au début, mais on s'aperçoit qu'il suffit de faire un pas pour traverser et les voitures s'arrêtent. Mais c'est une expérience de peur et de découverte de que cette peur est finalement vaine.
Alors j'aimerais avec vous, Édith de la Héronnière, puisque vous êtes aujourd'hui notre guide, j'aimerais que vous nous parliez de la maison de Néron, la fameuse Domus Aurea, qui est en fait, qui était une demeure gigantesque en termes de taille et de superficie. Et puis j'aimerais que vous nous parliez de la fameuse salle à manger.
Oui. Alors, d'abord, Néron, l'horrible dictateur romain, a occupé presque les trois quarts de la ville de Rome pour se bâtir un palais. Aux grandes dames de sa population, il a vraiment été haï de son temps. Et dès qu'il est mort, l'empereur Trajan a voulu faire construire des thermes à l'emplacement de la Domus Aurea, ce qui fait que cette immense demeure qui comprenait je ne sais combien de centaines de salles a été comblée juste après la mort de Néron et demeurée intacte. Comblé mais intact et donc pas du tout abîmé. Et une des particularités de ce palais de Néron, c'était une salle ronde qui tournait sur elle-même avec le soleil et qu'on pense avoir redécouvert très récemment assez loin sur le Palatin. Mais c'est presque certain, et les découvertes sont, enfin l'exploration est en cours, mais très probablement on a retrouvé cette salle, la salle ronde de Néron. C'est dire à quel point le palais de Néron était étendu, parce que c'est très loin de la Domus Aurea.
Quand vous parlez de la Kenatio Rotonda, vous dites qu'elle était ronde et tournait perpétuellement sur elle-même en imitant le mouvement de la Terre grâce à un mécanisme de roue hydraulique.
C'est
ingénieux,
ça.
Les Romains.
Et qu'on a retrouvé, j'ai vu des plans, j'ai vu des... maintenant, ce n'est pas encore accessible au public, hein. Mais c'est une... Parce qu'on ne cesse pas de redécouvrir la Rome antique.
Finalement, elle n'a pas donné tout, elle n'a pas livré tous ses trésors.
Non, loin de là, et elle ne pourra pas les donner parce que toute la Rome depuis l'ère baroque, médiévale, baroque et contemporaine, s'est construite sur la Rome antique. Donc, il y a des zones qu'on ne pourra pas atteindre.
Alors, vous expliquez aussi que finalement, il y a beaucoup de sites qui sont fermés. Pour cause de restauration, ça aussi, oui. Ça doit coûter aussi très très cher, j'imagine, à l'État italien. Et vous dites que visiter Rome, notamment, alors vous parlez d'un archéologue, c'est Emilio Rodriguez Almeida, un personnage haut en couleur.
Ah oui, qui est mort maintenant, malheureusement, qui était l'archéologue qui a beaucoup contribué à la découverte des poteries du Monte Testaccio. Cette petite colline de Rome artificielle qui a été construite, qui s'est construite au fil des siècles avec les poteries qui étaient amenées par bateau, pleines d'huile et de produits alimentaires. Et ces poteries, une fois qu'elles avaient livré leur contenu, on les cassait et on les jetait sur le Monte Testaccio. Et Emilio Rodriguez Almeida a exploré beaucoup ce mont Testaccio. Il a fait des découvertes importantes à Rome, mais il était aussi passionné par le poète Martial, qui était en fait originaire d'Espagne comme lui, parce que Emilio était espagnol et Martial aussi. Martial s'est établi à Rome et Martial, c'est un poète merveilleux, très haut en couleur, qui a décrit la Rome de son temps avec une précision et une ironie et je dirais même un érotisme. Souvent, il a décrit toutes les scènes de la vie romaine et il est passionnant, Martial. Si on veut connaître la Rome de l'époque de Néron, il faut lire Martial.
Donc c'est premier siècle après Jésus-Christ.
Oh, c'est ça.
Et donc c'est les fameuses épigrammes.
Oui.
Bien sûr, votre ouvrage fourmi de personnalités, vous l'avez évoqué précédemment, c'est une figure extrêmement originale d'ailleurs de la chrétienté, c'est Philippe Néri. Dans un chapitre intitulé « Un Socrate romain ». Alors, vous le dites, c'est un des esprits les plus joyeux, mais aussi un des esprits les moins conformistes de l'Église, oui. ce qui lui a attiré tout de même quelques incompréhensions et ennuis.
Alors, Philippe Néri a passé sa vie à Rome. Il a fondé plusieurs lieux d'accueil pour les pèlerins misérables et pour les sans domicile fixe. Comme
alors,
on
est au XVIe siècle, hein, faut le dire, hein,
oui,
16e siècle.
Oui, parce qu'au XVIe siècle, affluaient à Rome des pèlerins de toute l'Europe qui étaient très souvent des gens misérables, malades. Et il a fondé un hospice pour ces pèlerins. Et ensuite, il a créé l'église Santa Maria in Vallicella, et qui est devenue la Chiesa Nuova, près de la Piazza Navona. Et il a passé toute la fin de sa vie dans une petite cellule au premier étage de la Chiesa Nuova. C'était un saint mystique, un homme qui a créé le pèlerinage aux sept basiliques. Petit à petit, il entraînait tous les pauvres, les gamins des rues, les pauvres de son quartier, les riches, les prêtres, tous ceux qu'il pouvait racoler, si on peut dire, dans un pèlerinage qui était extraordinaire, que Michel-Ange a probablement suivi lui aussi. Et on partait de Saint-Pierre de Rome, et on parcourait toutes les basiliques romaines en plusieurs jours. Alors, Philippe Néri faisait préparer des repas, du vin qui coulait à flot, et tout le monde chantait, priait. On chantait beaucoup à cette époque-là. Et c'était ce qui est resté, le pèlerinage aux sept basiliques.
Alors, Philippe Néri, bon, adorait plaisanter. Et puis, alors... J'ai lu aussi, c'est dans ce chapitre, un Socrate romain, Ça, je ne le savais pas. Vous dites qu'à Rome, il y a une rue du paradis et une rue de l'enfer, comme dans beaucoup de villes d'Italie. Oui. En France, je ne pense pas avoir jamais
vu... À Paris, vous avez la rue du paradis, rue de paradis. Et
alors, y a-t-il une rue de l'enfer à Paris ?
Ça ne m'étonnerait pas. J'en ai pas la certitude, mais ça ne m'étonnerait pas.
Alors, on a parlé de figures originales. Il faut dire aussi qu'à Rome, bien sûr, l'histoire a été intense, l'histoire des idées, le souffle de l'esprit aussi, comme pour Vézelay. Hein, vous parlez de pèlerinage. Vézelay aussi est un haut lieu de pèlerinage. Parlons du prince du Campo dei Fiori, c'est-à-dire le Giordano Bruno, auquel vous rendez hommage dans votre fugue romaine.
Oui. Parce que sa statue domine le Campo dei Fiori, qui est la grande place de la Rome ancienne, hein, la grande place du marché aussi. Et c'est un personnage qui a été véritablement persécuté, qui était un grand esprit, un grand très marqué par Erasme et par un grand érudit, mais qui n'a jamais pu rentrer dans les rangs du catholicisme de la curie et qui a été emprisonné, persécuté, torturé, qui finalement a été mis à mort.
Brûlé vif.
Brûlé vif.
D'ailleurs, vous dites que...
sur le Campo dei Fiori.
Voilà. Alors, il s'est insurgé contre les dogmes, en particulier celui de la virginité de Marie, évidemment. Ce n'est pas chose à faire.
Mais il n'a pas été le seul. Beaucoup d'autres ont trouvé que c'était un peu bizarre, cette histoire.
Et vous dites, il pensait librement et voyait loin. Nombre de ses idées se sont avérées clairvoyantes. Encore récemment, en février 2017, la découverte par la NASA d'un nouveau système solaire, TRAPPIST 1, composé de 7 planètes dont 3 seraient potentiellement habitables, est venue confirmer son intuition de l'existence d'une infinité de systèmes solaires et de terres tournant autour de ces soleils dans l'hypothèse d'autres mondes habités.
Oui, c'est-à-dire qu'il avait... un esprit tellement vaste que il ne pouvait pas concevoir la simple Terre tournant autour du Soleil. Il voyait beaucoup plus loin, beaucoup plus, et c'était pas admissible à l'époque. Hein. On se cantonnait à la Terre créée par Dieu et on ne pouvait pas imaginer autre chose. Donc là, il a été très persécuté, mais il a frôlé aussi, il a été exclu de l'ordre des dominicains, il a été exclu un peu de partout. Il dérangeait, c'était un grand cerveau dérangeant, mais pas dérangé.
Édith de la Héronnière, donc, qui, comme vous l'entendez, nous entraîne au fil des saisons dans des incursions à la surface et dans les profondeurs de la ville éternelle dont les traces et les œuvres s'impriment au fond des yeux de tous ceux qui ont eu un jour la chance de s'y rendre. On se retrouve dans une poignée de minutes, une nouvelle petite virgule musicale et on retrouve notre invité.
Chanson pour rire, chanson étalée. douceur de vivre. Et pour le fun, puisqu'on déjeune, week-end rital. Retrouver le sourire, je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid. J'ai failli perdre mon sang-froid.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Fugue romaine, c'est le dernier ouvrage de Édith de la Héronnière qui est aujourd'hui soumise à la question devant les micros de l'émission littéraire de Radion à bord de Wagon Livre. Bien sûr, Édith, nous ne pourrons pas rendre compte de la richesse de votre ouvrage qui est absolument délicieux, qui fourmille d'informations. Et on pénètre avec vous dans des lieux vraiment méconnus de Rome quand ces lieux sont ouverts. Puisqu'effectivement, souvent, c'est, comment c'est chiuso ?
Chiuso.
Chiuso, ça veut dire fermé, hein, fermé. En italien. Il y a... Vous parlez du Moïse de Michel-Ange, alors je reviens à cela parce que c'est une petite information que j'ai notée. Le Moïse de Michel-Ange dans lequel Romain Rolland voyait l'image divinisée de son âme. Alors Romain Rolland, j'en parle parce que bien sûr, si vous vivez désormais dans la maison qu'occupa Georges Bataille, un peu plus bas au pied de la rue Saint-Étienne à Vézelay, il y a la maison de Romain Rolland qui abrite aujourd'hui le musée Zervos. Petit clin d'œil à Romain Rolland.
Oui, Romain Rolland qui a écrit un livre magnifique sur Michel-Ange, qui est paru chez Bartilla, présenté remarquablement par Jean Lacoste, justement.
Alors, tous les chemins mènent à Rome, mais finalement, tous les livres reviennent à Jean Lacoste.
Ben, il fait un travail de fond, hein, dans des points stratégiques.
Je sens de l'admiration pour Jean Lacoste.
Beaucoup d'admiration, oui.
Bien sûr, Rome, vous parlez de Carlo Levi. Moi, j'aimerais bien que vous remettiez un petit peu en avant et en valeur ce médecin, romancier, peintre italien qui est mort en 1975. Parlez-nous un petit peu, s'il vous plaît, Édith, de Carlo Levi.
Alors, Carlo Levi a été d'abord médecin, peintre, un très bon peintre. Et c'est lui qui a écrit le Christ s'est arrêté à Eboli, qui est le récit de son, comment est-ce qu'on dit, pas internement, mais de son éloignement par le régime fasciste dans un petit village des Pouilles.
Village placé en résidence surveillée, voilà, c'est ça le terme,
hein, il dit. Oui. un petit village de paysans misérables dont il a fait le portrait dans ce livre « Le Christ s'est arrêté à Eboli », dont le titre peut être ambigu. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le Christ n'est pas allé plus loin qu'Eboli. C'est-à-dire que au-delà d'Eboli régnait à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50, sous le régime fasciste, une misère noire. Et Carlo Levi a vécu avec ces paysans misérables. Il les a, pendant plus d'une année, hein, et il les a soignés, il les a peints. Il y a beaucoup de portraits de ces paysans. Et il en fait un portrait bouleversant d'humanité. C'est son œuvre qui contient aussi un livre sur la Sicile. Les mots sont des pierres qu'il faut lire absolument parce que c'est aussi une description de la Sicile dans les années 50. Et une œuvre empreinte d'une grande humanité et d'une attention aux petits, c'est une œuvre magnifique.
Alors si Carlo Levi a vécu au milieu des paysans italiens, dont il a montré la misère qui régnait en Italie, donc au milieu du XXe siècle sous le régime fasciste, il a vécu avec Amelia Rosselli, la poétesse, à qui aussi vous rendez hommage.
Oui, il a vécu peu de temps avec elle, mais Amelia Rosselli vivait dans le quartier où je résidais à Rome et j'ai pu la rencontrer. C'était une grande poétesse, très hermétique, difficile à comprendre, mais extrêmement émouvante et qui finalement s'est suicidée. Elle était la fille d'un grand résistant, Carlo Rosselli, et son père a été assassiné à Bagnoles de l'Orne. Son père et son oncle, les deux frères, ont été assassinés en France par des envoyés de Mussolini. Hein. Et la petite fille a vécu ça et en a été traumatisée toute sa vie. Et finalement, elle s'est suicidée. Mais
elle s'est jetée par la fenêtre du cinquième étage de l'immeuble où elle résidait.
Oui. Mais c'est une grande poétesse très, très remarquable qui était aussi musicienne et qui est petit à petit traduite en français. Il y a un beau travail de traduction qui est réalisé.
Donc on a bien compris, il faut lire « Les mots sont des pierres » de Carlo Levi et il faut découvrir la poésie de Amelia Rosselli, Dixit, Édith de la Héronnière.
Absolument.
Et Édith est de bons conseils, je le sens. Dans le dernier chapitre de votre fugue romaine, vous êtes sensible on a dit qu'il y avait 900 églises à Rome et donc on entend beaucoup de bruits de cloches et pas seulement ceux de Saint-Pierre. Et vous écrivez ces pages 163 « Où s'en va l'âme après la mort ? Dans le son des cloches peut-être ?»« Où s'en va l'âme ?»«
Qui sait ? Peut-être dans le tintinabuli des sonnailles de mon jardin à Vézelay ?» Peut-être.
Édith, vous rendez hommage à Rome, à son histoire, aux artistes qui y ont vécu, qui y ont travaillé, aux scientifiques, artistes qui y sont morts dans des conditions parfois terribles, hein, victimes de l'intolérance ou du tribunal de l'Inquisition. Cette ville de Rome, vous avez souvent jeté une pièce dans la fameuse fontaine en faisant le vœu d'y retourner.
Non.
Vous êtes certaine d'y retourner ?
Oh, je suis à peu près certaine d'y retourner chaque année. Mais si j'y retourne aussi, c'est pour les personnes que j'y ai rencontrées qui comptent beaucoup pour moi. Et je retourne pour également la mémoire de certains, de mon ami Arturo Patton, de cette grande résistante que j'ai eu la chance de connaître, qui s'appelait Topazia Aliata, qui a été une des grandes résistantes au fascisme, qui était une amie d'ailleurs de Carlo Levi, et qui est une femme qui est morte l'an dernier, et à 102 ans, et qui est restée jusqu'au bout une femme intraitable et magnifique, et qui a su, avec son mari, résister à Mussolini, et qui a été en exil au Japon et emprisonnée, jeune femme. Et je reste très liée à ses filles, une de ses filles en tout cas. Je reste très liée aux amis romains. Quelque chose se continue là-bas, j'espère, toujours.
C'est page 91. Vous parlez des suiveurs de l'Ariston moderne Michel Onfray. Petit coup de griffe ?
Tout petit.
Edith de la Héronnière peut griffer ?
Certainement, j'espère. Mais... je n'en dirai pas plus.
Je ne vous taquinerai pas plus. En tout cas, je recommande chaleureusement ce merveilleux... comment faut le qualifier ? C'est pas vraiment... C'est un essai ?
Oui, c'est un essai.
C'est un essai.
Oui.
Fugue romaine chez Desclés de Brouwer. Donc, c'est le dernier texte de Edith de la Héronnière. Prochain livre ? L'année prochaine ? Avez-vous déjà ébauché quelque chose ici, dans ce magnifique petit jardin de la maison de Vézelay ?
J'ai quelque chose qui est prêt, qui devrait paraître justement à Rome, en italien, et peut-être bilingue. On verra.
Merci en tout cas, Edith de la Héronnière, d'avoir été aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre, émission que nous avons enregistrée chez vous, à Vézelay. Merci de nous avoir accueillis devant cette terrasse. Vous pouvez peut-être un peu penser à Maurice Clavel aussi, on voit Aquin depuis ici.
C'est-à-dire sur des échasses, je verrai Aquin. Je vois la goulotte où étaient les Hervos et mon ami Claudice Tassar et Jean-Marie Queneau qui font un très beau travail de peinture et d'édition de la goulotte. Qu'est-ce que je peux voir encore ? Je vois mon voisin à deux maisons près, Jean-Pierre Canet.
Ah, alors Jean-Pierre Canet qui est passé dans Wagon Livre.
Oui.
Et oui. Finalement, avec Jean-Pierre Canet, vous êtes les deux seuls écrivains vivants de Vézelay.
Oui, 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 vivants pour le moment, oui, oui.
Merci beaucoup, Edith de la Héronnière, fugue romaine chez Desclés de Brouwer. Merci pour ce très beau moment, hyper agréable, érudit et délicat. On en a besoin à l'heure actuelle.
Ah, et le temps s'y prête.
Et nous sommes sous le parasol, sur votre terrasse. On peut pas. On a envie d'y rester, d'ailleurs.
Eh bien, restez.
Bonne journée, Edith de la Héronnière. Encore merci pour votre accueil et merci pour votre délicieuse lecture que vous m'avez offerte.
Mais je vous remercie, Yannick Petit.
Au revoir, Edith de la Héronnière.